Bonjour les devs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash, épisode spécial où on a un invité pour cet épisode. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'invité. Évidemment, comme d'habitude, on est accompagné d'Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Et donc pour notre invité, c'est vite fait, c'est un disciple de DHH et je pense un des meilleurs ambassadeurs de Ruby on Rails en France. Salut Guillaume.
Salut à tous, merci pour l'invitation, merci beaucoup. Et ambassadeur, je sais pas, mais je me donne du mal en tout cas.
Donc, épisode spécial, on va parler en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu, on avait parlé dans les précédents épisodes, il y a eu la conf Ruby on Rails il y a quelques temps, c'est Rails World, c'est ça, hein, ça s'appelle.
Ouais, Railsworld, ouais.
Et DHH avait fait une keynote de présentation qui était assez acide en fait concernant tout ce qui était Vercel et compagnie, voilà. En gros, il prônait le fait de retourner au self-hosting, de maîtriser les serveurs et de se débrouiller seul sans tous ces providers. Donc voilà, on va principalement parler de ça au niveau de l'épisode. Mais avant de commencer, bah, Guillaume, on va te laisser te présenter.
Ouais, carrément. Bah rapidement, ça fait une dizaine d'années que je fais du web à peu près. J'ai quasiment fait que du Laravel, du Rails et du Vue. Le reste, j'ai testé quasiment toutes les technos, mais plus pour m'amuser qu'autre chose. Mais ouais, principalement sur Rails. J'ai rejoint la contributeur team de Rails à l'époque pour intégrer Webpacker dedans. Donc ouais, je me suis chauffé sur Rails. Énormément de Vue aussi, comme toi. Toujours du Next, toujours aujourd'hui. Ça a pas bougé, mais ça dépend le projet. Pas mal de WordPress, beaucoup de Laravel et surtout dans l'hébergement, j'ai fait pas mal de Forge, pas mal de. Ouais, j'ai maintenu pas mal de serveurs. J'ai fait pas mal d'Heroku et de Scalingo, pour en citer un français. Donc Scalingo, équivalent, je sais pas si vous connaissez, mais équivalent Heroku français à Strasbourg. Très très cool, très 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 très, très
Ouais,
chouette
très bien, ouais.
service. Ouais, du coup, j'ai fait ça, bah, ça fait quoi? Ouais, 11 ans, 12 ans cette année que je fais que ça de ma vie. Mais du coup, surtout du Rails, hein, je vais pas vous mentir. Et du coup, bah, évidemment, j'étais à la RailsWorld à Toronto. Donc, j'ai suivi le déploiement de, enfin, le développement de Camel de très près. Et du coup, ça a été l'annonce de la 1.0. Et enfin, de la 2.0 surtout, mais qui est la vraie première version, on va dire, de Camel à Toronto. C'est trop bien. Mais voilà, rapidement.
Nice. Et pour le coup, DHH, on le sait qu'il est hyper acide, comme Patrick l'a dit sur ses présentations, tout. Il attaque les forts. Mais au-delà de ça, et un peu de l'effet d'annonce, d'un peu punchline, on voit quand même qu'il y a une tendance. Tu vois, on a fait un épisode sur Coolify, on a parlé de Forge, où on sent en fait que bah, tous les providers et toute la solution technologique qui nous a été donnée, on va dire, facilement par Heroku, par Vercel, par tous ces systèmes-là, on se rend compte aussi que ça vient avec un coût pour le porte-monnaie qui est souvent aussi assez fort, où il va falloir provisionner des machines qui nous vendent ça à des prix astronomiques. Alors oui, il y a c'est hyper facile à déployer, ça vient aussi avec un coût et aussi avec une sorte de lock-in, quoi. On est un peu bloqué chez eux. Si tu veux brancher d'autres services, bah, il faut que l'intégration soit faite. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu sens aussi cette tendance au-delà de Camel, mais d'ordre général sur le web où on est un peu en train de se dérouter, ou en tout cas se détourner des gros opérateurs type GAFAM, quoi.
Ouais, de ouf. Bah, j'ai l'impression que depuis que l'argent est moins gratuit qu'il y a quelques années, donc là on sort un peu de la période de Covid. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années l'argent était gratuit et limité. On était en mode on s'en fout, on veut que notre boîte ait de la valo, pas qu'elle génère de l'argent, mais qu'elle ait de la valo. Donc en fait les coûts, que ça soit les coûts humains ou les coûts de serveurs de technologie, on s'en fichait un peu. On était en mode ok, tu veux tester cette techno, si tu as besoin de 14 ingénieurs, on va mettre 14 ingénieurs dessus. Et ton serveur va te coûter 5 000 $ par jour, mais c'est pas grave en fait. Le but, c'était d'être le plus rapidement possible en prod pour valoir de l'argent. Et je trouve que depuis que l'argent est bah, plus cher qu'à une époque, et quand je parle de ça, je parle bah, de l'argent des VC, ce genre de choses, on se retrouve avec justement, bah, faut revenir à quelque chose d'un peu plus rationnel. Et on le voit d'ailleurs même dans les frameworks, mais aussi dans l'hébergement. On se rend compte que ouais, quand il faut commencer à déployer du Kubernetes ou du Vercel avec je ne sais pas quel autre serveur, il en faut 15 en parallèle et que ça coûte très vite très cher. Et surtout qu'on est vendor lock-in, bah on peut se poser la question de pourquoi on a besoin de tout ça en fait. Est-ce que vraiment c'est si compliqué de le faire tout seul? et surtout qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on a besoin pour notre business et où est-ce qu'on peut aller gratter de l'argent pour aller l'investir ailleurs. Et c'est ce qu'il dit dans la présentation, et c'est ce que moi je défends beaucoup, c'est que plutôt que de donner des sous à Amazon, je préfère payer un freelance ou un ingénieur pour shipper de la valeur plutôt que de l'héberger rapidement, quoi. Et après, on verra peut-être que bah, c'est pas si compliqué que ça potentiellement de déployer une app en prod. Mais oui, on le voit dans quasiment tous les services, quasiment tous les frameworks aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller donner $200 à Vercel chaque mois pour une app qui a 200 utilisateurs? Je sais pas, c'est faut voir. Mais ouais, je pense que c'est un peu la tendance qui vient aujourd'hui. Alors on parlera de Kamal après, mais je pense que c'est un peu la tendance aujourd'hui, c'est de revenir à quelque chose de plus simple et qu'on maîtrise. Et l'histoire de Kamal vient un peu de là, de en fait on est bloqué chez Amazon et comment on peut en sortir? Bah c'est pas si simple et ça coûte très très cher d'en partir et ça coûte très très cher d'y rester. Donc bah, comment trouver une solution pour potentiellement être un peu libre, quoi.
Ouais, mais de toute façon, DHH l'avait clairement dit, la raison première de la naissance de Kamal, c'était on reprend le contrôle parce qu'on lèche, enfin, on laisse des millions chez AWS et objectivement, on pourrait réinternaliser ça. Et je me rappelle où il faisait un parallèle avec justement le staff ingénieur où il disait, OK, ça coûte beaucoup trop cher. Donc toi, tu penses que... En fait, il y a même pas une philosophie. En fait, c'est on va dire bestialement money driven quoi. C'est en fait un mec qui fait ses comptes. Et à la fin du mois ou à la fin de l'année, il fait ses comptes et il dit ben, au final, ça nous coûte moins cher. Donc tu penses qu'il y a au-delà de là, c'est pas tellement philosophique, c'est purement financier quoi.
Je pense qu'il y a les deux. En fait, DHH, depuis toujours, et vous en parlez parfois dans les épisodes, il a toujours été un advocate de l'anti-monopoly, je sais pas comment on dit, mais il aime bien être indépendant. Il s'est battu énormément contre Apple, qui est justement, il a mis en avant énormément les PWA, vous en avez aussi parlé, j'ai vu. Et en fait, il aime beaucoup ce côté de je veux être indépendant. Et ça, jusque dans la technologie, on le ressent dans Rails, hein. Par exemple, l'idée de faire du no-build vient de l'idée de justement pas être dépendant de Node, pas être dépendant de quoi que ce soit. Je le jette dans le navigateur. Ça marque et il n'y a pas une entité, une entreprise ou un projet qui va me bloquer pour faire ça. Et l'idée de Kamal derrière, c'est de se dire, mais en fait, attendez, on est développeur, le terminal, on le connaît, on a un Linux, on se sert de macOS et de Linux tous les jours. Est-ce que c'est vraiment si compliqué de déployer quelque chose? En fait, ça va me coûter quoi? 200, $250 000 par an pour payer un DevOps? Mais déjà, il sera potentiellement pas full time dessus et je vais économiser peut-être quelques millions. Et en l'occurrence, c'est dans leur cas quelques dizaines de millions par an. Donc à leur échelle, ça commence à être largement significatif. Donc bah ok, même quand je fais mes petits calculs d'apothicaire, c'est rentable. Mais au-delà de ça, c'est juste bah ils se couchent peut-être un peu plus serein en se disant bah ok, il y a quelqu'un qui s'occupe de mes serveurs. Mais si demain je veux je sais pas scaler, si je veux changer mon serveur, bah j'ai juste à racheter un CPU et de la RAM et en avant, je peux faire mes petits trucs. Donc l'idée c'était, ouais, je pense que c'est un peu les deux. L'argent c'est du bonus dedans, mais c'est aussi de cette idée de se dire, vous avez vu, on voit souvent passer sur Hacker News, sur Twitter, partout, et salut Vercel, et t'envoie une facture de $90 000 pour un side project, pour un blog, et bah tu peux quasiment rien faire en fait. Et alors que bah c'est ce que je me suis amusé à faire récemment sur mon blog, c'est de se dire bah ok, est-ce que déployer là mon blog, bah, en fait ça doit me coûter $3 par mois et j'aurai jamais de surprise. Parce que c'est juste un serveur qui est dans une cave et j'aurai jamais la surprise d'une grosse facture ou d'un truc comme ça. Donc en fait, c'est vraiment l'idée d'être indépendant à tous les niveaux, que ce soit sur l'hébergement, sur la politique pour déployer une application comme une PWA ou dans un store, et jusque dans l'hébergement. Donc ouais, je pense que c'est un peu les deux. C'est un peu le double bonus, quoi.
Est-ce que, tu sais, est-ce qu'au niveau des formations, il n'y a pas aussi eu un loupé à un moment donné où nous, on est plutôt anciens développeurs, donc on a fait du Linux, on a fait un peu de serveur, tout ça, et les nouvelles générations de développeurs, on va dire juniors, mais qui sont même un peu plus que juniors, ont quasiment jamais fait en formation de gestion de serveur, des choses comme ça, et de suite, on les a fait déployer sur Netlify ou du Vercel, et du coup, bah, ils se sont habitués à ça, c'est facile, et on fait comme ça, quoi.
Ouais, je pense que clairement il y a de ça, hein, mais j'ai cru comprendre que tu faisais beaucoup de WordPress ou de PHP en parallèle des technos front. Et en fait, bah, tu l'as ressenti aussi, c'est que de partout on entend plus dire que PHP c'est une vieille techno et que c'est mort et que ça sert à rien. Maintenant, il faut faire du React pleine balle. Alors oui, pourquoi pas, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un peu le même effet, enfin un peu le même parallèle de se dire on a un peu diaboliser le fait d'héberger un serveur. On l'entend partout en mode ne faites surtout pas ça, c'est dangereux, c'est dur. Imaginez votre serveur n'est pas sécurisé, imaginez l'app tombe en prod et vous êtes pas capable de le redémarrer. En fait, je pense que si on est capable aujourd'hui de construire une application en React, on est capable de déployer un serveur. Comme je dis dans une des confs que j'ai fait récemment, là, on n'est plus en 1997. Les serveurs sont quasiment sécurisés par défaut. Quand vous prenez un Linux, même de base, sans aucune forme de sécurité particulière, il est quasiment inviolable. Du coup, les technologies ont énormément changé côté serveur et vraiment, on n'est plus à cette époque où on disait justement que PHP n'était pas fait pour les entreprises, parce que c'est un peu la même période, même parallèle de se dire, ouais, c'est pas si compliqué que ça. Et surtout, bah, c'est faisable en fait. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu l'effet de mode de se dire, ah, si tu veux déployer, prends du Vercel, t'embête pas. La question ne se pose même pas. C'est tu veux déployer une app Rails, pars sur Heroku. Tu veux déployer du Laravel, pars sur Forge. Tu veux déployer du React avec des serveurs Composant, pars sur Vercel. La question ne se pose même pas. Mais bah, ça se challenge quand même de se dire, ok, sur des petites apps, ça coûte pas très cher, donc pourquoi pas? Sur des apps d'entreprise qui commencent à être plus grosses, avec de la redondance, avec des choses comme ça. La question peut-être qu'il faut commencer à se la poser, quoi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire et de qui on est dépendant pour notre business, quoi.
Clairement, clairement. Après, je pense aussi que si Vercel a explosé aussi, c'est qu'ils ont investi beaucoup d'argent sur les développeurs advocate. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas dire que c'est la plaie, mais en
Ah
fait,
oui.
c'est un marché. Et comme tout marché, en fait, il y a ces évangélistes, ces influenceurs qui sont grassement payés par ces boîtes pour nous faciliter la vie. Et il y a un peu aussi du marketing de la peur, c'est-à-dire, tu vois, comme tu disais, c'est compliqué, tu vas te faire hacker et tout. Et donc, on croit en fait que si c'est Vercel qui en fait, si c'est hosté par Vercel ou par Netlify, ça va bien se passer, tu ne vas pas avoir de surprise. Or, ça, c'est une croyance totalement fausse. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'ils nous promettent quelque chose, mais au final, ils ne nous le donnent pas. Ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas si sécur, parce que si tu as codé et tu as fait NIMP, bah, si tu as leak tes variables d'environnement, bah, tu les as leak. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir avec Vercel. Donc, c'est nous, notre comportement. Par contre, il ne faut pas acheter non plus le bébé avec l'eau du bain. Ils ont quand même fait des trucs super bien. Tu vois, je pense pour des étudiants, voilà, qui n'ont pas spécialement le budget, ils déploient leur appli instantanément. Ils le montrent à tonton ou à mamie le soir. C'est quand même extraordinaire de pouvoir faire ça. C'est hyper facile. Alors, d'un autre côté, ça vient limiter la barrière, enfin, ça vient casser la barrière à l'entrée, parce que voilà, tu fais un Netlify deploy et ça marche, quoi, tu vois, ou Netlify, ou Vercel, ou voilà, ou
Ouais, Git push en
Heroku,
fait.
et ouais, tu fais, tu vois, voilà, Git push, Heroku, master, et puis master. Et donc, ça marche. Par contre, à côté de ça, bah, si tu veux passer peut-être à l'échelle, à un moment donné, le surcoût est vachement plus intéressant. Il ne faut pas tirer trop trop fort sur Vercel et sur les autres. Il faut savoir en fait quel est le meilleur outil, quoi, tu vois, et ne pas tomber dans le dogme soit de tout bar métal, on fait tout nous-mêmes,
Comment
et tout Vercel, tout PaaS et tout ça. Il faut essayer de trouver pour toi sur quoi tu verrais une sorte de limite, à quel moment tu te poses vraiment la question, tu vois, est-ce que pour des side projects, est-ce qu'il y a du calcul serveur ou c'est vraiment une histoire de business, d'équipe? C'est pour toi, c'est quoi en fait les éléments qui doivent rentrer dans le jeu pour dire, OK, maintenant, on est apte à récupérer et à devenir plus indépendant et à reprendre le contrôle de notre hosting et tout le bordel?
Pour moi, ça dépend de plein de choses. Bah, déjà, de la typologie de ton business, de ce que tu es en train de manipuler, de qui tu as en face. Si par exemple, ton but, c'est de vendre ta boîte le plus rapidement possible, bah, c'est peut-être pas le but du jeu de. Et c'est fine, hein, moi, je suis à l'aise avec ça. C'est peut-être pas le but d'aller se mettre sur du self-hosting là tout de suite. Parce que comme tu dis, en fait, ces technologies, Vercel et Netlify, pour tous les citer, peu importe, sont des technologies qui sont très très bien. Elles ont fait des trucs de fou. Mais je pense à PlanetScale surtout. pour la partie hébergement de base de données. C'est incroyable ce qu'ils font, l'autonomie que tu peux avoir avec leur système de primary replica avec des clusters. C'est ouf. À refaire ça à la main, c'est honnêtement un cauchemar. Mais en fait, quand on dit justement ce self-hosted, c'est pas forcément quitter le cloud entièrement. En fait, ça ne nous empêche pas d'héberger son compute, par exemple, donc son Laravel ou ce que tu veux, et d'avoir du S3, d'avoir un Planet Scale derrière, d'avoir ce que tu veux. En fait, on n'est pas obligé de tout jeter. Et je pense que ça dépend de ton business. Si, encore une fois, quand tu commences un projet, bah, tu es quand même bien content d'avoir un serveur bar métal à 40 $ par mois. Tu vas pouvoir mettre 5, 6, 7 applications, j'en sais rien, dessus. Ça va pas te coûter plus cher par application. Ça, c'est cool. Les coûts sont anticipables et très linéaire souvent. Par contre, quand tu vas commencer à passer à l'échelle, avoir un load balancer, avoir des services qui tournent, avoir peut-être un node en parallèle d'un Laravel par exemple ou d'un Rails si possible, d'avoir tout un tas de choses à droite à gauche, bah là, les coûts vont être souvent exponentiels. L'upscale sur ces outils-là va être très très cher. Et du coup, bah la question va rapidement se poser de bah qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que le prendre quelqu'un qui va peut-être être un peu plus dédié à ça ou réduire du temps quelqu'un dans l'équipe pour qu'il s'occupe un peu plus de ça, est-ce que c'est rentable par rapport à justement tout déléguer à Vercel et compagnie? Parce qu'encore une fois, le scaling sur ces outils-là est, je pense, le plus cher. Le coût à l'entrée est pas si cher que ça, mais c'est en général le scaling qui devient
Très cher.
affolant en termes de très très cher. En fait, par exemple, pour reprendre l'exemple des Heroku, je crois qu'ils ont encore les prix de 2009, 10, 11 dans ces eaux-là. C'est insolent le prix des Heroku. Alors oui, ils s'occupent sur le papier de tout. Mais faut remettre en perspective de justement qu'est-ce qu'ils font pour nous, qu'est-ce que moi je suis pas capable de faire et à quel point ça me prendrait du temps de le faire moi-même. Pour reprendre l'exemple de PlanScale, je suis pas capable là tout de suite de faire des clusters avec des primary replica dans toutes les régions du monde. En vrai, trop dur.
Chaud.
Par contre, héberger chaud. Par contre, héberger en load balancer un Nuxt, en même avec en server-side rendering. Ça, en vrai, je pense qu'on sait tous faire. En fait, si vous savez le lancer à peu près, on y reviendra après, mais si vous savez lancer la commande dans votre terminal en développement, l'étape pour passer en production est pas si grande que ça. Beaucoup moins qu'il y a une dizaine d'années, beaucoup moins qu'à l'époque où Vercel est né. Je crois que c'est en 2015, 16. Coupez-moi
Par
si je dis
là,
n'importe quoi.
ouais, par là,
Dans
ouais.
ces eaux-là. Et comme tu dis, en fait, ils ont un budget qui est illimité pour les influenceurs. On les connaît, on a tous le même feed YouTube, hein, je pense. Vous savez très bien de qui je parle. Ils en
Oui.
ont parlé énormément sur Internet. Ils ont des centaines de milliers de vues. C'est délirant par rapport à toutes les autres communautés. Et d'ailleurs, vu en pâtit aussi hein, de
Bien
ça,
sûr.
parce qu'ils misent à fond sur Next et Vercel, du coup, de fait. Mais du coup, ouais, il y a toute une génération de gens qui sont en mode, bah, la stack par défaut, c'est Vercel Next. Le reste n'existe quasiment pas. Et bah, je pense que c'est cool de challenger ça et de se dire, bah, OK, en tant qu'entreprise, on est en train de scale. Et scale ne veut pas dire grand-chose, mais c'est à tous les niveaux. Hein. Bah, qu'est-ce qu'on veut mettre en place et comment est-ce qu'on grossit? Donc, si c'est pour un projet, OK, bah, on peut mettre 5, 10, 20 projets sur une boîte qui coûte 70 $ par mois, tout va bien. Ça ne buggera jamais, en fait. Il n'y a pas de raison que ça plante. Par contre, si on commence à avoir des pics de charge ou qu'on a une projection d'évolution qui est assez linéaire, bah, on peut anticiper quelques trucs. Et là, je pense que la question se pose de comment est-ce qu'on scale? Voilà. À peu près.
Puis après, enfin moi je reviens sur une expérience, parce que tout à l'heure tu as parlé de Scalingo, ça me fait plaisir parce que j'aime bien ce service, c'est trop cool.
Oui.
Et pour un client, on a fait du Next justement avec un proxy qui était devant, on était chez Vercel, et puis d'un coup, du jour au lendemain, en fait, le WAF a bloqué notre proxy et le site devenait inaccessible. Et là,
OK.
qu'est-ce que tu fais en fait? Bah, quand tu veux contacter Vercel, il n'y a personne qui te répond en fait. Personne ne te répond. Netlify, c'est pareil. On a demandé des tarifs de l'assistance en fait de Netlify. C'est plus de 3 000 $ par mois en fait pour ne serait-ce qu'avoir une assistance et pour t'aider. Donc par la
Ah, c'est
suite, bah,
ouf.
voilà, on est passé sur Scalingo où là, oui, du coup, ils étaient là, ils répondaient, etc. Mais, voilà. Donc il y a aussi cette partie-là, c'est que tant que tu n'as pas de problème, ça va. Mais le jour où tu as des problèmes, il n'y a pas grand monde pour te répondre en fait.
Ouais. Ah, c'est clair, mais on le voit même ouais, avec les factures cachées ou avec les coûts cachés. Rien que l'ingress, donc pour sortir d'un service, par exemple, ça peut être en dizaines, centaines de milliers de dollars, millions pour certains. Et ouais, l'autoscaling, tous ces services-là sont excessivement chers. Alors oui, on peut avoir la sérénité d'esprit de se dire, enfin, on sait ce qu'on paye, mais est-ce qu'on a envie de payer pour ça, quoi? Et ouais, ces services-là sont, ouais, je me répète, mais sont très chers, mais très très cool malgré tout, faut pas cracher dessus. Et moi, je m'en sers encore tout le temps. Il y a des projets, je vois pas l'intérêt d'aller les héberger moi-même, parce que c'est des blog posts, hein, parce que c'est des petits nugs à droite à gauche, c'est de la documentation, c'est un site vitrine pour une boulangerie ou ce genre de choses. Ouais, aller l'héberger moi-même à la main, bon, bah, ok, tant pis, je paye 10 dollars de trop, mais c'est que 10 dollars. Je suis pas dans, pour certains projets, on n'est pas dans les échelles dont on parle actuellement, quoi. Mais par exemple, pour donner un ordre d'idée, Basecamp, donc 37 Signal, quand ils ont sorti Kamal, en 3 ans, si je dis pas de bêtises, ça fait 3 ans maintenant, parce que pendant une année, c'était pas public, ils ont économisé, je crois, 9 millions de dollars, quelque chose comme ça. Donc en fait, 9 millions moins 250 000 de dollars de DevOps x 3, ben en fait, ça
Ça
fait
reste
six
rentable.
millions. Ça reste rentable. Alors eux, c'est une petite échelle. Imaginez sur des beaucoup plus gros projets, la question, je pense, ne se pose même pas. On n'a pas le choix de revenir au self-hosting. Mais du coup, ça dépend la typologie du projet. Ouais, je pense que ça dépend de l'équipe, de l'appétence des gens, des compétences que vous avez. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté de faut pas en avoir peur, quoi. Faut pas en avoir peur. Comme WordPress, ça fait peur au début, mais en fait, pas tant, quoi.
Et
Mais il y a
est-ce
aussi. Ah, pardon, vas-y.
vas-y, Patrick,
Ouais, il y a
vas-y.
aussi. Non, je pensais aussi, il y a aussi une baisse aussi de tout ce qui est hardware, tout ça, parce qu'en fait, la promesse du début de AWS, en fait, c'était, écoutez, on vous prête nos serveurs et vous utilisez ce que vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup, bah, ça vous coûte pas cher. Et si c'est beaucoup, vous avez un pic de trafic, ça vous coûte cher. Sauf qu'aujourd'hui, le hardware a beaucoup baissé et pourtant, les prix Amazon n'ont pas tellement baissé, en fait. Donc,
Ouais,
il y a
c'est
un
fou,
petit
ouais.
truc qui n'est pas logique, en fait.
L'autre jour, je faisais un calcul pour rigoler pour la dernière conf là. Il y a en fait, si je prends un bar métal chez Scaleway en l'occurrence, mais peu importe, c'est valable chez tout le monde, même chez Etzner et compagnie. Si j'ai 96 cœurs et 256 gigas de RAM, ça me coûte 200 dollars et quelques par mois. Bah, c'est un conteneur Heroku. Et du coup, le plus puissant évidemment, mais en gros, c'est un ratio de 1 à 100 en termes de puissance. Donc, même si j'ai pas d'autoscaling, même si j'ai pas de trucs de fou, en fait, ça me coûte moins cher que l'autoscaling qui n'existe que parce que justement c'est cher. Et du coup, bah, en fait, le prix du hardware s'est effondré ces 10 dernières années, les 15 dernières années. Et on se rend pas compte à quel point la puissance qu'on a aujourd'hui à disposition pour un coût qui est minime. C'est délirant maintenant les serveurs et on le voit même avec les puces ARM qui sont aussi disponibles sur du bare metal. On le voit avec les MacBooks, rien que des MacBooks en fait, c'est des machines de guerre pour 1000, 1500 dollars quoi. Donc c'est assez fou, ouais.
Et après, il y a, tu vois, on parle de scaling hyper, hyper poussé. Il y a aussi un autre penchant où, tu vois, il y a une énorme, pour moi, je considère qu'il y a une énorme barrière à l'entrée. Mais il y a aussi une barrière à la sortie de chez les gros quoi, chez les GAFAM. En mode ouais, on met tout chez AWS. On a tous ouvert un jour dans notre vie la console AWS ou Azure. Tu pleures du sang. T'es là,
Ah
tu
oui,
comprends rien. Donc en fait,
ouais.
t'es obligé de te former, de monter en compétence là-dessus pour dire ok, bah je vais apprivoiser cet environnement. Ok, alors maintenant il y a du infrastructure as code. Ok, donc tu vas faire ton framework en interne. Hop, tu vas deploy, ça va se faire tout automatiquement. Mais après, tu sais plus trop qu'est-ce qui est lancé, tout. T'as intérêt à bien gérer ton truc.
Ouais,
Donc
tout à fait.
il y a une énorme en fait barrière à l'entrée. Mais sauf que quand le CFO de la boîte il dit OK, maintenant
Après,
les gars, on va faire des économies, tu as l'équipe, ils disent ah non, mais attends, là on a passé un an à tout déployer, à tout mettre, à faire une montée en compétences. Bah, en fait, là tu me demandes de rebasculer sur ton bar métal pour de l'idéologie, mais aussi pour de la thune. Mais ça va me coûter aussi taquet de pognon, quoi.
Ouais, c'est clair. Bah ouais, je pense qu'il y a deux trucs. De toute façon, les transitions, s'il y a besoin d'en faire une, c'est très cher. Toujours, toutes les transitions sont chères et compliquées. Et du coup, le principe, enfin, pour l'histoire de la barrière à l'entrée, clairement, je pense que ce soit en self-hosting ou dans le cloud, il y a toujours une barrière à l'entrée. Quelqu'un qui vient de commencer le dev et qui veut lancer, enfin, mettre en prod son projet, il y a quand même des trucs à faire. Il faut quand même monter en compétence, comme tu dis, par AWS. Sur Vercel, sur les DNS, sur la sécurité de ses credentials, sur les backups s'ils sont pas par défaut. Il y a quand même des choses à faire. C'est pas juste bonjour. Enfin, c'est pas un truc que tu demandes à quelqu'un et qui s'en occupe pour toi. Hein. C'est pas un employé Vercel. Donc il y a quand même des choses à faire. Et que ça soit dans les deux cas du coup. Et oui, le coût de la transition peut être très élevé. Donc il y a quand même du vendor lock-in qui est confortable pendant un temps parce que justement on ne peut pas sortir de ça, la transition serait trop chère. Et je sais plus pourquoi je dis ça, je me suis perdu.
C'est pas grave, il y a un coût à l'entrée, il y a un coût à la
Il y a un
sortie.
coût à l'entrée, c'est ça. Il y a un coût à l'entrée, un coût à la sortie. Oui, c'est ça. C'est que quand, par exemple, tu es chez Google ou chez Heroku ou chez Vercel, est-ce que tu sais comment Vercel déploie ton application? En fait, on n'en sait rien. C'est leur business. C'est voilà mon code. Débrouillez-vous pour conteneuriser tout ça. Débrouillez-vous pour installer toutes les dépendances, tout ce que vous avez besoin. Je veux juste que mon app soit en prod. Et ça, pour savoir le refaire, ça demande effectivement des compétences. Mais de toute façon, pour déployer une application, quelle qu'elle soit, vous êtes obligé d'avoir des compétences, au moins un minimum de DevOps. Et je pense que, pareil, on en fait un peu des caisses, peut-être, de dire que le self-hosting, c'est compliqué, que c'est une usine à gaz. Ça me rappelle vraiment ce côté, ouais, on est plus dans les années 90. Et bah, je pense qu'en se lançant, on se rend compte que c'est pas si dur. Par contre, la transition, oui, la transition est très compliquée. Même moi, hein, je suis un fan de self-hosting depuis longtemps. Il y a des apps que, ouais, bah, tant pis, je paye trop cher pour l'héberger, mais parce que, le coût de la transition ne vaut pas le coup ou il sera amorti dans plusieurs années et bah, j'ai la flemme, quoi. Mais du coup, la question, en tout cas, elle n'est pas si simple et je pense qu'il faut qu'elle se soit posée assez tôt et que les gens montent assez vite en compétence. Mais de toute façon, il y a une montée en compétence dans tous les cas. Hein. Il y a pas de, c'est pas binaire, c'est pas blanc d'un côté et noir de l'autre, quoi. Donc,
Et tu crois pas aussi qu'il y a, il y a, il y a, un, il y a un jeu qui s'instaure aussi avec les DevOps qui sont déjà en place, et on sait qu'il y a une communauté de DevOps, tu vois, en mode voilà, nous on fait du DevOps, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et là je vais pas me faire des amis peut-être, mais tu vois,
Attention.
d'essayer de. Non, mais ce que je veux dire, de défendre un peu sa paroisse, tu vois, et en disant ouais, c'est complexe, tu vois, ouais, c'est complexe. Et donc, c'est aussi une manière de garder sa compétence, ou en tout cas, d'être reconnu pour sa compétence, parce que c'est complexe, c'est compliqué, la sécurité, nanana, tout ça. Et en fait, ça entretient le mythe. Tu vois ce que je veux dire un peu
Bien
ou pas?
sûr, ouais. Bah, je pense qu'il y a forcément une part de vrai, même les devs, on est comme ça. Je pense qu'on est tous comme ça. Mais je sais pas si, pour l'anecdote, je sais pas si vous avez connu l'époque où tous les DevOps, tous ceux qu'on voulait recruter, voulaient mettre du Kubernetes de partout. Peut-être que vous avez connu ça. Quelle que soit l'app, avant même qu'ils te demandent quel est ton business, quel est le goal de ton entreprise, genre qu'est-ce que tu espères être dans 2 ans, 3 ans, quels sont tes objectifs?
Faut
T'es en
mettre
mode,
du cube, faut mettre du cube.
faut mettre du cube. Si vous voulez scale, faut mettre du cube. Mais t'es en mode, ouais, mais je veux faire un site pour une boulangerie, en fait. Je ne veux pas faire du cube. Ou je veux être, enfin, je connais la croissance de ma boîte depuis 4 ans, elle est linéaire. Elle va pas magiquement être exponentielle. On n'a pas fait de sales, enfin d'action de communication particulièrement. On n'a pas fait de marketing. Il n'y
T'as
a pas
pas
de
de Black
raison qu'elle
Friday, quoi.
explose, en fait. J'ai pas de Black Friday à gérer. Enfin, mon business, l'immense majorité des business, la croissance est linéaire et ou meurt. Mais bon, en général, elle est linéaire. C'est rarissime les cas où ça l'est pas.
En tout cas,
Mais quand
prévisible.
même, il y avait.
Ouais.
Ouais, c'est prévisible. Ça dépend souvent des actions qu'on met en place à côté. C'est pas. Tiens, je vais pas passer sur M6 sans le savoir, en fait. Je vais pas être responsable de la gestion des vaccins comme Doctolib l'a été sans le savoir, en fait. C'est rarissime que les projets, la croissance ne soit pas linéaire. Et du coup, malgré tout, les DevOps voulaient mettre du cube de partout. Et cette vague est un peu partie. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cet aspect de, bah, en fait, la question ne se pose pas. À l'époque, c'était cube. Maintenant, enfin, pendant longtemps, ça a été cube, le pass. Et en fait, bah, on peut tout remettre en question, en fait. Pourquoi on pourrait pas se dire, bah ok, vas-y, je mets du self-hosting moi-même, en fait. C'est possible. En fait, tu sais faire, si tu sais mettre du Kubernetes en place, tu sais faire du self-hosting. Donc ouais, je pense qu'il y a un peu ce côté, il y avait une hype aussi de la part des DevOps en mode, putain, un nouvel techno de fou. Comme à l'époque avec React, hein, en mode, tiens, c'est Facebook qui présente ça, bah là, c'est Google. Ok, on va en mettre deux partout. Et on se retrouve avec des technos, enfin, des projets Frankenstein dans tous les sens, parce que c'était la mode à l'époque, quoi.
Et
Donc ouais, je pense qu'il y a
ça
un peu
devient
ce.
l'usine à gaz aussi à deploy, quoi. Alors
Ah ouais.
que
Ah bah ouais.
alors qu'il y a juste un tout, il y a une petite app front, ok, il y a un back-end,
C'est
tu vois,
clair,
ok, et tu
ouais.
te trouves avec une usine à gaz. Tu vas passer plus de temps à mettre en place
Ouais, c'est
ta
clair.
stack pour ton nouveau dev qui vient d'arriver, où ils sont trois. Et le quatrième, il arrive. Putain, il faut tout lui setup, c'est méga
Ouais, c'est clair.
complexe, tout.
Ouais,
Alors qu'au
c'est clair,
final, ça
ouais.
n'allait
Ouais.
pas. Ok,
Ouais, c'est clair.
tu as fait une présentation il n'y a pas longtemps sur justement un outil où Kamal, qui a été poussé par DHH, 37 Signal, tout ça. Toi, tu as déjà déployé des applications en prod dessus. Tu as fait un espèce de mini repo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Kamal, comment ça se passe, c'est quoi le concept, c'est quoi en fait les étapes du process. Voilà, moi j'ai soit un Nuxt, soit un Ruby on Rails à déployer. J'ai mon bare metal, j'ai ma clé SSH pour me connecter. Comment ça marche?
En gros, avec tout ce qu'on vient de dire, donc Kamal est né dans cette philosophie, avec tout ce qu'on vient de dire, en mode, bah, j'ai pas envie d'avoir du vendor lock-in, j'ai pas envie d'avoir tout ça, j'ai envie de gérer mes serveurs moi-même, mais sans tout le côté un peu relou. Peut-être que la plupart des gens qui nous écoutent connaissent Forge pour déployer du Laravel. Je pense que c'est l'exemple le plus connu ici. Nous, on a Hatchbox côté Rails, mais le principe est le même. En gros, bah, quand vous achetez un serveur, et je viens après sur Kamal, mais quand vous achetez un serveur, vous devez le sécuriser, vous devez installer Nginx, vous devez installer une base de données, quelle qu'elle soit, vous devez installer Redis probablement, tout un tas d'outils, vous devez les installer à la main. Et une fois que tout ça est installé et que l'app est déployée, vous allez devoir maintenir ce serveur. L'idée de Kamal, c'est de se dire, OK, toute la partie sécurisation du serveur, on ne le fait pas. Par contre, ce qui est difficile dans le déploiement d'une application sur un bare metal, toujours, hein, ce n'est pas l'installation de ces outils-là, c'est comment je prends le code de GitHub et que je le mets en ligne, sans qu'il y ait de coupure entre le déploiement. C'est bah, tout ce que fait magiquement Vercel, tout ce que fait magiquement tout ce qu'on vient de dire. C'est comment prendre le code et l'exécuter en prod. Ce qu'on disait au début, c'est que bah, prendre du Nuxt et le déployer en prod, bah, tu peux pas juste faire Nuxt start. Il y a quand même des étapes à faire. Et du coup, l'idée de Kamal, c'est de se dire, OK, on a Docker, on a du bare metal. Comment on va automatiser les commandes Docker pour que ça prenne l'application, ça la mette dans un container Docker et ça la push sur un serveur et que ça fasse un peu sa magie tout seul. L'idée, c'est de répliquer la simplicité, en gros, des passes, donc bah, Vercel, Heroku, tous ces trucs-là, répliquer la simplicité des passes, mais en ligne de commande. Donc, en gros, en une commande, donc Kamal Deploy, en l'occurrence, bah, c'est un outil qui va packager votre application, la containeriser, la mettre sur un hub, donc Docker Hub, quel qu'il soit, et après, ça va lancer des commandes directement depuis votre serveur pour déployer l'application. Donc c'est très très proche de ce que va faire un Forge typiquement ou ce genre d'outil, sauf qu'au lieu que ça soit directement en dur sur votre serveur en faisant un Nuxt start sur le serveur, ça va le faire via un conteneur Docker. Donc bah, pour scaler, trop pratique, une fois que l'application elle est bindée, vous pouvez la déployer sur 48 serveurs en parallèle si vous avez envie. Toute la partie SSL, donc HTTPS, est gérée par Kamal, et du coup bah, vous avez globalement, en caricaturant un peu, globalement rien à faire. Donc j'ai fait plusieurs démos à la présentation là que tu parles, qu'on mettra peut-être en lien. En gros, entre le moment où j'achète le serveur et le moment où je déploie mon application, si le Dockerfile est déjà créé, bah, il me faut 10 minutes, même pas. Est-ce qu'on est vraiment à 10 minutes près quand on fait du pass? Je ne pense pas. Mais en tout cas, je peux scale mon application sur autant de serveurs que je veux en 10 minutes. Et bah, l'idée générale de Kamal, c'est ça, c'est de se dire, OK, on s'occupe de rien si ce n'est prendre le code, le mettre sur le serveur. Je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est un peu l'idée.
Non, mais clairement, et clairement.
Mais est-ce que tu lances Kamal de ta console sur l'ordi? Est-ce que tu as un système qui va déployer automatiquement ou c'est possible de le mettre en place, tu vois, quand tu fais un commit ou un truc comme ça?
Ouais, alors c'est en gros, il y a quand même moins de features. Hein. C'est pas un outil, c'est pas un service, hein. C'est pas quelque
Oui.
chose qui est, c'est pas un abonnement pour préciser quand même. C'est pas un concurrent de Vercel ou ce genre de choses. C'est vraiment un outil en ligne de commande.
Ouais, c'est open source en plus, hein.
C'est en plus open source, mais vous n'avez rien à héberger, il n'y a rien à faire. Hein. C'est vraiment du pur CLI. Hein. Il y a pas, ils n'essayent pas de vous vendre un Vercel bis simplifié ou un Heroku différent. Pas du tout. Là, c'est vraiment des commandes qui vont, pour vous, faire l'équivalent de Docker build, Docker push, Docker up, et c'est quasiment tout, en fait, en caricaturant. Avec évidemment tout un tas de choses pour gérer les credentials, gérer ce genre de choses, gérer les rolling releases, gérer le rollback, gérer, bah, un tas de trucs comme ça, mais c'est vraiment un outil en pure ligne de commande pour vous aider à déployer. Donc c'est pas un concurrent au pass, c'est vraiment un remplaçant de tout ça. C'est vraiment un remplaçant en ligne de commande, quoi. Donc si vous avez l'habitude de faire ouais un Laravel pusher avec Laravel Forge par exemple, bah là ce sera le même concept, sauf que c'est pas en ligne. Et oui, on peut quand même simuler des passes. Donc par exemple, bah, vous pouvez trigger le déploiement depuis une CI par exemple. Donc pareil, j'en ai parlé à la dans la conférence dont tu parles, Alex, là. Mais en gros, bah, ce que je fais, c'est que dès qu'il y a une pull request qui est ouverte, je déploie un environnement sur un nom de domaine particulier et ça va faire un Kamal deploy depuis la CI, mais le concept est exactement le même. Donc en fait, pour une fraction du prix, on va pouvoir simuler un peu ce que fait un Netlify avec les deployments ou un Vercel avec les deployments ou ce genre de choses, quoi.
Ok. Donc à GitHub Actions, tu peux déployer ton camel sans
Ouais, de
problème.
ouf. En fait, il n'y a pas d'intelligence dans camel, hein. Vraiment, c'est
Ouais.
faut voir ça vraiment comme une ligne de commande qui est disponible, c'est en rien. Enfin, c'est pas que compatible avec Rails ou avec quoi que ce soit. Ça lance vraiment des commandes à votre place, mais ça fait juste des commandes Docker pour vous, quoi, en caricaturant évidemment. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment très... Une fois que vous avez votre serveur, eux, ils s'occupent de le déployer, enfin de déployer votre code sur le serveur, quoi. En gros, l'idée, c'est ça.
Ouais, c'est super important ce que tu dis parce qu'en fait, quand ça a été présenté, on avait l'impression que c'était Ruby on Rails et finalement, c'est compatible vraiment avec tout en fait. Hein, c'est toute techno confondue, quoi. Ouais.
En fait, à partir du moment où tu peux mettre ton framework dans un conteneur Docker et lancer, par exemple, PM Start, Nuxt Start, Next Start, ou que tu veux, WordPress avec PHP FPM ou Laravel, enfin, je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris l'idée. À partir du moment où tu peux le mettre dans un conteneur Docker et que l'image arrive à se builder, tu pourras te servir de camel. Tout le reste, après, est complètement transparent pour toi. Ça va, faut juste connaître Docker un petit peu quand même. On peut pas faire sans. Mais toute la gestion, ouais, des secrets, toute la gestion de est-ce que c'est up and running, est-ce que quand le conteneur il meurt, il se relance tout seul, est-ce que quand le serveur crash, est-ce que ça se relance tout seul, comment sécuriser les accès à la base de données, comment avoir le SSL, donc HTTPS automatiquement, tout ça est géré par Camel. Donc voilà, mais ouais, le concept c'est que ça lance des commandes à votre place, mais les commandes, vous les voyez. C'est pas comme sur Heroku ou Vercel, ce genre de choses. Là, vous voyez ce que Camel fait pour vous, en gros. Donc,
Et
ouais, non, c'est très, très cool, en fait, ouais.
est-ce que t'as déjà utilisé ça? Est-ce que tu as déjà vu des limites, en fait? Par exemple, tu vois, je pense qu'il y a certaines personnes, ils ont un fichier Nginx ou Kdi, Trific, tu vois, où ils ont un petit peu tweaké leur config pour pouvoir injecter soit un peu plus de sécurité, soit de l'observabilité ou des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as déjà touché la limite de Kamal parce que ou pas du tout parce que voilà tu voudrais rajouter des trucs mais c'est pas dans les features ça le permet pas ou peut-être tu as trouvé un moyen de contourner en fait Kamal mais aujourd'hui est-ce que ça te convient pleinement ou tu vois déjà des limites?
Je pense que, en fait, il n'y a pas vraiment de limite à Camel, vu qu'il fait rien. En fait, si tu peux le faire avec Docker comme tu fais d'habitude, donc par exemple en tweakant des confs Nginx, par exemple, déjà si tu sais faire ça, normalement tu sais déployer ton application normalement à peu près. Que ça soit sur Forge, tu vas pas aller toucher des configurations Nginx sans vraiment comprendre ce que tu fais. Donc là, concrètement, ça va être, tu vas tweaker une configuration Nginx et la mettre dans ton conteneur Docker PHP FPM. Mais concrètement, Camel, lui, pour lui, c'est complètement transparent. En fait, c'est plus de la gestion d'un Dockerfile que de la gestion de Camel lui-même. Camel, il fait pas grand-chose. Encore une fois, il fait Docker build, Docker push, Docker pull, Docker run, et c'est quasiment tout, hein. Donc en fait, la limite de Camel, pour moi, elle est pas tant dans l'outil, elle est plus dans qu'est-ce que moi je sais faire avec Docker. Et tout à l'heure, l'exemple de PlanetScale est parlant, hein. À partir du moment où, par exemple, je veux faire un backup de ma base de données, bah là, il y a des concepts quand même qui commencent à être un peu touchy. Dans le sens où comment je la sécurise, comment je la chiffre, comment je la déploie sur S3 de manière sécurisée, comment je suis capable de, ok, imagine là mon app elle crash ou je dois faire un rollback de ma base de données, est-ce que j'ai les compétences pour le faire? Kamal, lui, il y a aucun lien avec Kamal là. C'est juste est-ce que moi je suis capable de le faire en Docker? Peut-être pas. Est-ce que je suis capable de faire un cluster avec du primary replica comme fait PlanetScale en un clic ou des, je crois que ça s'appelle follower sur Heroku? Ah, c'est déjà plus touchy quoi. Et là, plus dur. Mais faisable. Encore une fois, Kamal, là, il n'y a aucun lien avec Kamal. C'est plus qu'est-ce que nous, on est capable de faire, quoi.
Et donc, est-ce que ça se rapprocherait pas un petit peu de en cible ou des choses comme ça? Où en fait, tu vas un peu orchestrer, tu vois, ta création d'images, des choses comme ça, quoi.
C'est un peu l'idée. Alors, en cible, lui, pour le coup, il vient avec rien. C'est juste des fichiers YAML qui sont transformés en ligne de commande. Camel, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour toi. Hein. C'est-à-dire que quand tu lances Camel la première fois, tu n'as pas besoin de configurer quoi que ce soit. Il va juste faire les commandes par défaut. Ansible, quand tu l'installes, il n'y a rien dedans.
Ouais.
C'est à toi de créer ton YAML. Mais l'idée, je comprends ce que tu veux dire. L'idée est quand même d'orchestrer un peu son truc. Alors, Ansible va plus être utile pour préparer les serveurs que déployer. Et bien sûr, on peut faire les deux, on peut faire ce qu'on veut. Mais au final, oui, il va juste lancer des commandes à distance. C'est juste que Camel vient avec quand même l'idée derrière par défaut, de lancer ta base de données, ton Redis, enfin tes bases de données, tout ce que tu veux, et de lancer ton compute, donc ton Laravel, ton Rails, plutôt ton Rails, ton Laravel. Mais l'idée, non, c'est ouais, il vient pas sans rien, c'est pas une coquille complètement vide non plus. Par contre, ouais, pour ce qui est de tweaker ou de commencer à faire des choses, bah là, c'est à toi de savoir faire. Et oui, moi, je m'en sers du coup depuis bah quasiment la version 0.2, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, bah dès le départ, à l'époque, moi, je déployais des applications avec Capistrano, pour ceux qui connaissent. Mais c'est l'équivalent de Forge pour être très très direct, hein. C'est on héberge PHP-FPM en dur sur le serveur, donc c'est pas containerisé. En fait, j'ai tout remplacé par Camel. J'ai pris un serveur à 40 dollars et j'ai migré tous mes petits projets ou ceux qui génèrent pas assez d'argent pour que ça soit justifié ou ceux ou si ouais ceux qui ont moins d'importance entre guillemets. J'ai tout migré dessus, littéralement tout migré dessus parce que je fais des snapshots du serveur tous les jours et si j'ai un problème, bah je le redéploie ailleurs concrètement. Donc en fait, la question se pose pas, mais ça me coûte 40 dollars fixe et c'est prévisible à l'avant. Je n'ai aucun problème avec ça. Et après, bah, pour tout le reste, je m'en suis servi. Enfin, ça dépend les projets, ça dépend les serveurs, ça dépend, encore une fois, la raison du business du projet derrière. Bah, en général, maintenant, par défaut, je mets du Camel quasiment partout. Sauf quand j'ai besoin, encore une fois, de faire surtout du primary replica. C'est mon gros pain point. Mais sinon, non, j'en mets absolument partout, hein. En fait, c'est du Docker. Il n'y a pas de raison que ça marche moins bien qu'un Heroku. Heroku est hébergé par AWS. Il n'y a pas de raison que mon conteneur marque moins bien ou mieux sur Heroku que sur Camel. Donc j'en ai mis partout. Depuis 2 ans maintenant, voilà, je suis à fond dessus.
Ok, tu nous as convaincus. Ok, vas-y, moi j'ai mon app
C'est bon.
Node qui tourne tout. Moi, je sais builder, je sais packager, on va dire, mon app, la run en local. Ok, tout marche nickel. Comment je fais pour apprendre en fait Camel et voir, c'est quoi? Il y a une doc, il y a des infos qui sont suffisamment claires et explicites pour qu'ils me prennent par la main et qu'ils m'expliquent tout, on va dire, step 1, prendre mon serveur, step 2, mettre tel package ou tel package Linux, je pense à des fail to ban ou des firewall ou des choses comme ça, ou non, j'ai pas besoin de faire ça parce que Kamal le fait pour moi, tu vois, des choses comme ça. En clair, si je veux monter en compétence sur Kamal, vers où je me tourne?
Alors, tu mets un point sensible. Pour l'instant, il y a deux trucs, mais je sais que tu fais exprès. Mais il y a deux notions. Camel vient vraiment se mettre pas dans la configuration des serveurs ou l'achat des serveurs. Ça, c'est à vous de vous faites ce que vous voulez. Donc en fait, Camel ne sécurise pas le serveur, il fait rien. Il part du principe que Docker est installé et lui, son boulot, c'est que de prendre l'application que vous avez en local, quoi, et de la mettre sur le serveur. Par contre, tout ce qu'il y a avant ou après, ça sera pas sur Camel qu'on trouvera la documentation, ça sera à vous de savoir comment configurer votre serveur. Donc en vrai, c'est ce que je disais dans le lien qu'on mettra dans la description peut-être, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Par défaut, Linux est largement sécurisé, je pense à Ubuntu par exemple. Par défaut, il y a quasiment rien à faire, mais il y a quand même des petits trucs à changer. Mais globalement, si vous enlevez l'authentification en password, votre serveur, vous enlevez 90% des problèmes. Si vous mettez un fail to ban, vous enlevez 95% des problèmes. Et en vrai, un pare-feu derrière pour ouvrir que les bons ports, vous avez normalement quasiment plus de problèmes dans vos vies. En tout cas, de sécurité, en caricaturant, mais globalement, vous aurez quasiment pas de problème. Par contre, pour la documentation de Kamal, pour l'instant, elle est pas ouf. Faut être honnête. Il y a quand même des trucs à comprendre. Il y a quand même des choses à savoir. Faut faire le mapping un peu mental entre le fichier YAML que vous allez avoir et le résultat que ça va donner en prod. Mais ça s'approche énormément de ce qu'on a avec Google Build, par exemple, pour ceux qui ont fait du GCP. Ça s'approche énormément de ce qu'on a avec Docker Compose. C'est très très proche. La syntaxe est quasiment la même. Donc en gros, si vous savez faire du Docker Compose, vous saurez probablement faire du Camel. Mais bah, faut savoir faire un peu de Docker Compose, faut être honnête. Donc la doc s'améliore petit à petit, mais il y a énormément d'articles qui sont sortis aussi parce que la doc est pas ouf et qu'on essaye de l'améliorer petit à petit. Mais ouais, faut quand même des compétences en Docker et en infrastructure de manière générale. Mais encore une fois, faut dédiaboliser ça. C'est pas si compliqué que ça en fait. Quand on voit les usines à gaz qu'il y a en React et en Next, vous savez sécuriser un serveur, je pense. Mais du coup, ouais, c'est loin d'être aussi complexe que qu'on le pense. C'était pas le cas il y a 10 ans, pour être très franc. Il y a 10 ans, un serveur, fallait quand même faire un peu plus de bidouille dans des fichiers de config un peu obscurs. Aujourd'hui, par défaut, ça va quand même. Hein. C'est pas bon, faut le chercher. C'est d'accord, faut le chercher. ChatGPT est excessivement bon en petits tips, excessivement bon. Vous lui dites qu'est-ce que je dois faire? Je viens d'acheter un serveur, qu'est-ce que je dois mettre en place? Alors, il a quasiment juste sur tout. Et bah, si tu veux, je peux faire ma petite pub. Tu as parlé d'Ansible, en cible, je sais pas comment on dit. J'ai créé un playbook Ansible qui configure tout pour toi et tu as globalement pas grand-chose à faire hein, de plus hein, que ça, quoi.
Excellent, on mettra le lien de ton playbook.
Ah, ça
Excellent.
me fait plaisir.
Non, mais après, faut dire aussi, on peut très bien prendre, tu sais, pour se faire la main, s'il y a des auditeurs qui ont envie de se faire la main un petit peu, prenez un VPS chez, je sais pas qui, OVS, Infomaniac, un truc comme ça vaut 3-4 balles par mois. C'est vraiment une misère. Et puis amusez-vous avec, quoi. Mettez un Ubuntu dessus. C'est quasiment sécurisé par défaut. Il n'y a pas le password par défaut. Les portes, tu les ouvres. Enfin voilà, faut le faire. Faut les ouvrir. Par défaut, ils sont fermés. Donc voilà. Et on se fait la main, on s'amuse avec Kamal, et puis voilà, quoi. Et il n'y a pas de
Ah, c'est
risque, en
clair.
fait.
C'est clair. Et pareil, dans la même manière, on me dit toujours, parce que ça rejoint un peu ce que tu dis, comment on fait pour scale, par exemple? Ben, en fait, est-ce que déjà, quand on reprend notre courbe linéaire, mais si j'ai besoin de scale, ben, je crée un deuxième serveur à côté, je mets un load balancer à 10 $, 20 $ devant, et voilà, j'ai scale avec le double de puissance pour un prix qui est seulement x2 et pas exponentiel. Donc, de la même manière, pendant que l'un est up, on peut s'occuper de l'autre, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est loin d'être si barbare et compliqué que ça. Pour donner un ordre d'idée, pour répondre à ta question, depuis un an, j'avais fait un tweet un peu piquant, mais en fait, c'était vrai. J'avais oublié que j'avais acheté un serveur parce qu'il me coûtait 3 balles. Ça merge les factures, donc je l'avais oublié. Je me suis reconnecté dessus 360 ou 480 jours plus tard. Il était à jour parce que les mises à jour se font toutes seules. Kamal avait crash de temps en temps parce que c'est pas moi qui avais crash, c'était une coupure d'électricité où il y a un data center qui avait pris feu au hasard. Et du coup, on se retrouve avec le truc qui reboot tout seul et qui se remet à jour tout seul. Et je me suis reconnecté dessus bah, pour passer de Kamal 1 à Kamal 2. Et j'avais oublié l'existence de ce serveur et les apps ont été en prod bah, pendant 380 jours. Elles n'ont jamais crash pour de vrai, quoi. Donc c'est fou en fait. On peut très, très bien oublier un serveur et il va s'auto-gérer tout seul. Parce qu'encore une fois, les technologies sur Linux ont largement évolué depuis 10, 15 ans, 20 ans. Et on n'est plus à cette ère barbare où il fallait être dans une cave avec des pizzas pour s'occuper de ça, quoi. C'est un peu fini tout ça.
Nice, tu parles de technologie, de tweets un peu piquants, tout ça.
Ouais.
On sait, on en a parlé en off avant, mais tu nous l'avais déjà dit, je crois, dans l'épisode où tu étais déjà venu, où tu étais parti aux États-Unis pour la boîte pour qui tu bosses. Ça m'intéresse en fait de voir un peu l'écosystème américain où, tu vois, on parlait de tweets piquants tout à l'heure. On sait que DHH a beaucoup œuvré et un peu virulent. Est-ce que tu crois que justement tout cet écosystème un peu punchy, React, tu vois, est-ce que vraiment ils ont un impact ou c'est que de la com? Où il y a vraiment une trame de fond, tu vois. Ça m'intéresse aussi parce que, bon, on va pas se leurrer, t'es pro Ruby and Rails.
Peut-être un peu, ouais.
Non, mais moi, je l'ai été pendant très longtemps. Voilà, je pissais rouge en mode ouais, DHH, tout ça. J'ai pris vachement plus de distance parce que je suis tombé dans l'écosystème JS. Et aujourd'hui, en fait, mine de rien, tu peux dire tout ce que tu veux, je me sens vachement raccord avec DHH et avec tout ce qu'il dit, tu vois. Tu vois, je me pose la question sur un peu tout cet écosystème un peu pas gaulois, enfin, tu sais, un peu le côté, le village un peu qui veut pas tomber dans la doxa que tout le monde impose, tu vois. Est-ce que vraiment, aux États-Unis, il y a cette mouvance où le marketing a fait des ravages identiques à l'Europe?
Ouais, je pense que c'est très similaire. J'ai pas tout le background américain, mais en tout cas, oui, il y a quand même, je pense, ce besoin de mettre un peu des coups de pied dans la fourmilière. Et oui, quand on fait du Rails, on est un peu, ouais, ce village gaulois, comme tu dis, on est un peu les derniers. Mais je pense que c'est plus une philosophie qu'être attaché à une techno en particulier. Je suis pas attaché à Rails particulièrement, c'est pas mon bébé, hein. C'est pas grave, mais c'est plus la philosophie qu'il y a derrière. Tu vois, je t'entendais dire l'autre jour, Tu as parlé de Gritsum, par exemple, qui est mort en l'air. Il y a Gatsby, que moi j'utilise encore pour mon blog, qui est mort. Et en fait, des technos comme ça, il y en a 20 qui pop, 19 qui meurent. Et c'est usant, en fait. De se dire, tu vois, là, par exemple, j'ai pour ma librairie, j'étais en Nux 2. La migration vers Nux 3 est quasiment impossible, ça me rend fou. Et alors, c'est
Ouais.
vrai, elle est quasiment impossible. C'est un cauchemar. La migration
Oui,
de
je
Vue 2 à
confirme.
Vue 3,
Elle
elle est
est très
quasiment
très dure.
impossible.
Elle est très très dure.
C'est un euphémisme, hein. La migration de Vue 2 à Vue 3 est un cauchemar. La plupart des librairies n'ont pas migré vers ça. Et en fait, l'idée derrière Rails, la philosophie que DHH porte, c'est pas tant venez, on fait tous du Rails, c'est venez, on fait des choses simples. Venez, on essaie d'utiliser des outils, pas que pour s'amuser, mais aussi pour générer de l'argent. Parce qu'on est un peu là pour ça. Donc oui, s'amuser, c'est cool. Générer de l'argent, c'est cool aussi. Parce que, au final, le principe même de la plupart des business, c'est pas que d'en valoir, c'est aussi d'en générer. DHH déteste les VC de manière générale. L'idée,
Ouais.
c'est vraiment, si ton but, c'est de valoir de l'argent et de vendre dans 5 ans, très bien. Moi, je suis à l'aise avec ça. Faut juste le savoir. Et dans ce cas-là, fais ce que tu veux. La question se pose pas. Par contre, si tu es dans un business un peu plus long terme, où tu te dis, à quoi je vais ressembler dans 3, 4, 5 ans, comment je peux me déployer, comment je peux me développer de manière, linéaire ou même, un peu plus exponentielle, mais comment je vais générer du cash à la fin? Là, la question de la stabilité se pose et tiens, on va peut-être pas mettre du green sum pour s'amuser parce que la migration vers Next va être un peu compliquée, quoi. Pareil pour Next, on voit les évolutions de Next 14 à 15 à 16. Je pense qu'il y a des gens qui, encore aujourd'hui, en mordent les doigts d'être sur Next pour des features qui, au final, sont cool, mais qui sont très proches de ce qu'on a sur la plupart des frameworks back aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un regain de hype sur les boring technologies, comme je les appelle. Donc, Rails, le self-hosting, Laravel. Laravel, il y a de la hype, mais au final, c'est Rails avec 3 ans de retard. On peut me faire des amis, là.
Oh là
Mais
là.
l'idée, c'est. Ah là 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 là. Non, mais en fait, les features, il se passe rien sur Rails parce que le jeu est fini. En fait, il n'y a plus grand-chose à montrer. Juste avec Rails, je fais un Rails New. Tout est prêt pour générer de l'argent. Avec Yamal, tout est prêt pour le déployer dans les 10 minutes qui suivent, ou presque, si on a des compétences en Docker. En Laravel, c'est pareil, en vrai, c'est la même chose. Mais ce n'est pas le cas
Ouais.
forcément dans les autres écosystèmes. Donc, du coup, voilà, l'idée aux États-Unis, c'est de. Maintenant que l'argent est beaucoup plus cher qu'il y a encore autour de la période Covid, oui, on commence à se remettre à des choses plus rationnelles. Je ne sais pas si vous avez vu, le marché de l'emploi aux États-Unis s'est effondré pour les devs ces dernières années. Donc ça a un impact, évidemment, tout le monde devient un peu plus rationnel, on teste moins de choses, on va moins voir son manager en disant hey, viens, on met du Gritsum pour le LOL, viens, on teste Planet
Ouais.
Scale pour rigoler et ça va coûter 20 000 balles par jour. Il y a moins cette envie de tester des trucs, on revient à des trucs un peu plus rationnels. Et je pense que ça va dans le bon sens, c'est pour ça que j'aime autant la communauté de Rails, c'est qu'il y a cette philosophie de venez, on fait un truc simple, le code qui marche aujourd'hui va marcher dans 15 ans parce qu'il y a du no build, par exemple. Et je vais pas avoir toute ma toolchain à refaire tous les 4 matins. Même si je pense, et je suis 100% d'accord avec vous, ce que vous présentez tout le temps, c'est de se dire, il faut que cette technologie, il faut que des gens innovent pour qu'à la fin, qu'il y en ait un et qu'il y ait vraiment un truc qui soit 10 fois meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Donc il faut faire des tests. Mais en attendant, venez, on fait des trucs simples. Venez, on fait des trucs simples et on déploie des trucs simples. Et voilà, j'aime beaucoup cette philosophie et je trouve ça cool aux États-Unis. Ouais, je ressens un peu le côté de. T'sais, on peut être viré du jour au lendemain aux États-Unis, c'est mon cas. Et du coup, tu tentes pas des trucs de fou quand tu peux être viré du jour au lendemain. Moi, en tout cas. Donc voilà, il y a un peu cet effet-là, quoi.
Nice.
Voilà, je sais pas
Ah
si
ouais,
ça
c'est vrai
répond à
qu'il y
ta
a
question, mais.
une Rails inspire, enfin depuis des années, hein, inspire énormément d'autres techno frameworks et tout ça. Symfony par exemple a été beaucoup inspiré par Rails. Laravel aussi. Enfin c'est assez
C'est
fou quand
clair.
même que ce framework inspire les autres techno. Et finalement c'est tout le monde gagne parce que même si tu fais du PHP, et cette
Ah, c'est
simplicité,
clair.
ouais, moi je trouve que le mapping, là, le nouveau système de mapping, tout ça, le no build, tout ça, c'est arrivé dans Symfony, ça arrive dans Laravel,
Ouais,
c'est aussi
c'est
arrivé dans
clair.
WordPress. Là, je me suis rendu compte que
Ouais.
WordPress avait implémenté ça aussi avec l'Interactivity API. Donc on voit que vraiment ça infuse dans toutes les technos et enfin, c'est assez
Ouais, c'est
fou
clair.
l'influence de ce framework et de DHH, quoi.
Ouais, et je pense que, tu vois, il est tranchant, je pense qu'on l'aime, on le déteste, mais au final, c'est ce qui permet clairement d'avoir quelque chose que. On n'en parlerait pas, en fait, s'il n'était pas comme ça, je pense. Moins. Parce que derrière Rails, il n'y a pas de business, c'est différent de Laravel. Laravel vit de Laravel. Rails, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, il y a aussi besoin d'en faire parler. Il y a quand même. Ils n'ont rien à vendre, Rails. En fait, tout est. y a pas de business derrière elles, littéralement. Donc en fait, y a le fait d'en parler, le fait d'être autant précurseur sur certains trucs. Je pense que des exemples, on en a beaucoup, mais d'être précurseur à ce point-là et visionnaire à ce point-là sur le mobile, le venez, on remonte à contre-courant, mais parce qu'on sait qu'on a raison, tu vois. Donc c'est prétentieux, il est prétentieux, mais je pense que dans beaucoup de cas, si ça fait 25 ans, 20 ans qu'il est là, c'est que c'est peut-être pas pour rien, quoi.
Après, je pense aussi que DHH, il est peut-être pas du tout aimé, tout, mais contrairement à certains gratteurs de buzz, tu vois, je pense que lui, il incarne ses convictions, si tu veux, tu vois. Ou en fait, maintenant, tu vas avoir des dramas sur Twitter, machin, mais tu te poses même la question si ça n'a pas été orchestré tellement que
Ah, normal.
c'est too much, quoi, tu vois. Par contre, avec DHH, on n'a pas l'impression. Le mec, il le
Ouais.
respire vraiment, il
Ouais,
le
c'est carré.
vit et il l'incarne, quoi. Et
Ouais,
pour
c'est
moi,
clair.
c'est là où ça marque vraiment une grosse différence.
Ouais,
Et
ouais,
pour le coup, ouais, ça change tout, quoi. Ça change vraiment tout.
ouais, c'est clair. Et puis, il est cohérent. En fait, ça fait. Il a une vision. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il en a une. Un peu comme Taylor Atwell, qui était d'ailleurs à la Rails World. Il en a parlé dans un podcast en mode les deux frameworks s'inspirent énormément. Honnêtement, quand on regarde le code source des deux, c'est quasiment les mêmes. Hein. Le nom des fonctions sont les mêmes, le nom des helpers sont les mêmes. À part l'écosystème, quasiment tout est pareil, ou presque. Très sincèrement, si on aime Laravel, on aime Rails. Il n'y a pas de. Active Record, qui est sur Laravel, bah, le nom vient de Rails. Hein. C'est exactement les mêmes patterns. Bref, c'est la même chose. En fait, les deux frameworks ont une vision, ont une politique, et le self-hosting fait partie de ça pour reprendre le sujet principal. Bah, je le vois moins sur d'autres frameworks, pour être très sincère. On dirait qu'ils ont plus, ils créent un problème pour te vendre la solution. Je pense à l'autoscaling, par exemple, c'est pas une solution, c'est une solution à un problème qui n'existe sur le papier pas, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, ouais, comme tu dis, les dramas, parfois on est en mode, mais. Pourquoi vous avez besoin de créer tout ça? Le changement, par exemple, de Next récemment, là, bah, si c'est pour pas faire parler d'eux, je ne sais pas à quoi ça sert, pour être honnête. On dirait qu'il n'y a pas de vision, qu'ils ont besoin de shipper des features, de release une majeure par an pour faire parler d'eux, parce qu'il y a des VC qui attendent de la thune derrière. Et ça donne un peu cette impression. Et nous, on n'a pas ce problème dans cette communauté, donc je trouve ça plutôt cool, ouais.
Ouais, carrément. Sur
Voilà.
Next, t'as totalement raison. Ouais. On a l'impression que c'est un peu l'iPhone. En fait, tous les ans, il faut qu'ils sortent une nouvelle feature, une nouvelle version. Et c'est un peu, des fois, des fois, ils vont trop vite. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la dernière conf, ils ont fait machine arrière, en fait, sur certaines
Ouais, c'est
choses
clair.
qu'ils ont jugées trop compliquées. Ils se sont rendu compte que, ouais, finalement, c'est trop complexe. On va remettre le truc par défaut. Enfin, voilà. Donc, ouais, il y
Ouais,
a
c'est
une
clair.
obligation, ouais, d'innover, en fait, ouais, qui est
Ouais.
peut-être pas chez le Race, quoi.
Bah, parce que nous, la plupart des. Enfin, nous, je repense à Laravel Rails. La plupart des solutions qu'on ship, enfin, qu'on met en open source, sont des choses qui viennent d'un vrai business. C'est pas à l'inverse. C'est pas, bah voilà, on vous propose une techno, faites-en un business. C'est, on a eu un problème dans le business. Voilà comment on l'a résolu, on boule open source. Et du coup, en général, ça vient d'une vraie problématique et la plupart des trucs qui sont dans Rails, Laravel, tout ça, bah, sont déjà battle-tested et en avant, on peut s'en servir pour de vrai dans la vraie vie. On sait que des gens ont déjà généré de l'argent avec et bah, on sait que ça marche quoi, de manière générale. Donc, c'est plutôt cool. Et
Ouais,
voilà, et... Ouais, pardon, vas-y, vas-y.
comme tu disais, Kamal, ils l'ont utilisé. Donc, Kamal existe depuis combien de temps? 2, 3 ans? 3 ans?
Alors... On ne connaît pas la date exacte de départ, mais en tout cas, la première release publique à 2 ans,
Ouais.
en grosse maille, à peu près. Mais la
Et ils l'ont.
vraie première version, pour moi, c'est la version 2. C'est la vraie première version, là, qui date de cet été à Toronto. Donc, ouais, là, 6 mois, quelque chose comme
Mais
ça.
eux, ils l'ont testé en prod dès le début.
Ouais,
Elle a
alors,
fait
ils ont fait
évoluer
toute
le
une série
truc et
d'articles. Je ne sais pas si tu as vu, ils ont fait toute une série d'articles sur le cloud exit de Basecamp. Donc, ils ont acheté un serveur à 500 000 dollars, je crois, d'ordi.
Ah ouais.
Ils l'ont mis dans une, ils l'ont, ouais, ils l'ont mis dans une cave et en avant, comme à l'époque, mais bon, c'est avec des VM containerisés, tout ça. Mais quand même, ils l'ont acheté. Ils ont fait le vrai cloud exit, alors que nous, on est juste en mode pass exit. Mais eux, c'est à fond. Ouais, ils ont même pas un cloud provider derrière, quoi. Mais du coup, ouais, ça a 3 ans et en fait, bah. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans 15 ans, parce que, encore une fois, c'est du Docker, bête et méchant. Il n'y a pas de technologie bizarre, il n'y a pas une syntaxe particulière bizarre. C'est du pur Docker. Tout ce que fait Kamal, on peut le refaire en Docker. On n'est pas dépendant de la technologie, on n'est pas dépendant de Kamal. Kamal n'est qu'une surcouche du sucre syntaxique sur ça, mais c'est tout, quoi. Voilà.
Nice.
Ok.
Trop bien.
Trop bien.
Trop bien. Écoute, Guillaume, c'est super cool que tu sois venu en fait nous parler un peu de Kamal et de tout cet écosystème. Enfin, nous, on prône ça un peu sur, tu vois, sur, on va dire sur la dernière année, on a un peu le pass fed up, tu vois, on n'en peut plus du pass et machin. Et ouais. Pour le coup, tu vois, moi, j'ai vraiment, là, je suis sur un gros projet et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais ? Et pour le coup, j'ai pris mon bar métal et je push mes apps, donc c'est cool. Et c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Donc non, c'est super cool. Écoute, on sait que tu repars aux États-Unis.
Normalement.
Est-ce que ça te va si on se prend un petit rendez-vous dans le futur, tu vois, et que tu nous parles un peu de l'écosystème tech aux US, à New York, avec toutes les trucs que tu peux vivre et un peu le Frenchie en insider, quoi, tu vois.
Moi, mon rêve, c'est de faire un meet-up avec vous chez GitHub ou chez Google à New York directement, et on enchaîne sur un podcast sur un rooftop au-dessus de l'Hudson River. Voilà, vas-y. Ça c'est mon rêve avec vous.
Ça c'est
c'est noté.
On lance une bouteille à la mer et on y travaille.
Ok, trop bien.
Ça marche.
Ah bah, carrément. Ah bah, trop carrément, bien. C'est trop bien de faire ça. Trop bien.
Écoute, trop bien. Un grand merci, merci à toi.
Merci.
Un grand merci à tous les auditeurs qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, ça nous aide toujours. Un grand merci à tous les sponsors et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
Salut, merci à tous.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.